23h à Paris, 1h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Delphine Liu.
À la une de l'actualité, les postes clés de l'Union européenne seront validés tout à l'heure par les 27 à Bruxelles. Parmi ces trois top jobs, la chef de la diplomatie européenne, un poste qui revient à l'Estonienne Kaya Kallas. Portrait dans ce journal. Un ex-djihadiste condamné par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre au Mali. Pour la Fédération internationale des droits de l'homme, il faut aller encore plus loin. Nous entendrons son secrétaire général dans quelques instants. Et puis les émissions de gaz à effet de serre continuent de baisser en France. Une bonne nouvelle, mais la tendance va-t-elle se poursuivre? Élément de réponse dans ce journal. Tentative de coup d'État en Bolivie. Pendant quelques heures, des chars ont occupé la place Murillo, où se trouve le Parlement et le siège du gouvernement. Avant de se retirer, le général putschiste Juan José Zuniga a été arrêté. Il avait été destitué de ses fonctions la veille après une série de menaces contre l'ancien président Evo Morales. Retour en Europe, à Bruxelles tout à l'heure. Les 27 réunis en sommet pour deux jours valideront les trois postes clés de l'Union européenne. La conservatrice allemande Ursula von der Leyen conserve la présidence de la Commission. Le portugais, le socialiste Antonio Costa devrait remplacer Charles Michel à la tête du Conseil européen. Et puis, c'est le nouveau visage de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. L'actuelle première ministre estonienne devrait être confirmée au poste de haute représentante pour les affaires étrangères. Alors comment réagit-on dans les pays baltes? Correspondance de Marielle Vitureau.
Kaya Kallas est habituée aux premières fois. En 2019, en devenant chef du gouvernement, elle est la première femme à occuper ce poste dans son pays. Cette nomination européenne est aussi inédite. C'est ce que relève Andrés Kazekamp, politologue.
C'est la première fois qu'un Européen de l'Est occupe un poste si important. C'est une avancée considérable.
Kaya Kallas est devenue une figure incontournable de la politique européenne depuis le début de la guerre russe en Ukraine. Son pays a montré l'exemple pour soutenir Kiev. Pour la Lituanienne Margarita Šešelgytė, à la tête de l'Institut de sciences politiques, cela montre un changement de position au sein de l'Union européenne.
Ce poste revient au représentant d'un pays qui a toujours eu une position très ferme à l'égard de la Russie. C'est aussi un succès pour notre région. Peu à peu, on commence à nous écouter.
Le départ pour Bruxelles est une porte de sortie bienvenue pour Kaya Kallas. L'économie estonienne se porte mal, les mesures d'austérité sont contestées, la popularité de son gouvernement est au plus bas. Marielle Vitureau, Vilnius, RFI.
Les 27 ont prévu d'ouvrir ce sommet à Bruxelles avec la signature d'un accord de sécurité avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Conseil européen veut afficher son soutien à Kiev dans sa guerre face à Moscou, donc entrer dans sa troisième année. Au Kenya, le président fait marche arrière. William Ruto retire son budget 2024-2025, un projet qui prévoyait des hausses d'impôts, qui avait généré manifestations et émeutes réprimées dans la violence. 23 personnes au moins sont mortes, selon les organisations de droits humains. Et puis au Mali, la Cour pénale internationale condamne un ex-chef djihadiste pour crimes de guerre et contre l'humanité. Abdulaziz Alassane, ex-milicien d'Ansar Dine, était le chef de la police islamique. Il a donc été reconnu responsable d'actes de torture et d'atteinte à la dignité de la personne pour des actes commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Cette condamnation a été saluée par la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour son secrétaire général, Maître Drissa Traoré, c'est une avancée supplémentaire dans la lutte contre l'impunité pour les crimes qui ont été commis au nord du Mali. Mais la justice malienne doit maintenant aller plus loin, selon lui, pour que tous les responsables soient retrouvés et condamnés. On l'écoute.
Les victimes sont soulagées pour l'essentiel. Je dis bien pour l'essentiel. Les victimes d'esclavage sexuel, les victimes de viol, par contre, ont un petit goût d'inachevé parce qu'ils espéraient que leur souffrance puisse être reconnue par la Cour pénale internationale qui, malheureusement, a acquitté Alassane des crimes de mariage forcé, d'esclavage sexuel et de viol. Il y a beaucoup d'autres acteurs des crimes qui sont commis au nord du Mali lors de l'occupation. La procédure devait continuer pour permettre en tout cas que l'ensemble des principaux acteurs puissent être recherchés et retrouvés. Malheureusement, tout stagne, rien ne bouge parce que nous pensons qu'il n'y a pas de volonté politique manifeste de donner les moyens et de permettre à la justice au Mali d'avancer sur ces crimes graves qui ont été commis au nord du Mali.
Bachar al-Assad sera-t-il jugé un jour en France? La justice ouvre en tout cas la voie à un procès. La Cour d'appel de Paris a validé ce mercredi le mandat d'arrêt français visant le président syrien. Bachar al-Assad est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières perpétrées en août 2013. Pour les parties civiles, c'est une décision historique, Laura Martel.
Historique, car c'est la première fois qu'une juridiction nationale reconnaît que l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice n'est pas absolue, soulignent les avocates des victimes et ONG françaises et syriennes parties civiles dans ce dossier. Rappelons de quoi il est question. Depuis 2021, des juges du pôle crime contre l'humanité de Paris enquêtent sur la chaîne de commandement syrienne qui a mené deux attaques chimiques contre des civils en 2013, dont celle du 21 août au gaz sarin dans la Rota orientale qui a tué plus de 1000 personnes. En novembre dernier, première décision historique, les juges délivrent un mandat d'arrêt contre quatre hauts dignitaires, dont Bachar al-Assad lui-même. Mais le parquet dépose ensuite une requête en annulation contre le mandat qui vise le président syrien. Il pointe en effet que jusqu'à présent, il est unanimement estimé que les exceptions à l'immunité personnelle des chefs d'État en exercice sont réservées aux juridictions internationales comme la Cour pénale internationale. Le parquet veut donc voir la question tranchée par une juridiction supérieure. C'est chose faite puisque la Cour d'appel a donc validé le mandat d'arrêt. On ne sait pas encore sur quel argument elle s'est basée, mais cette décision inédite ouvre la voie à la tenue d'un procès en France contre Bachar al-Assad dans ce dossier, qu'il soit arrêté grâce à ce mandat ou non, même si le parquet peut encore se pourvoir en cassation.
Israël ne veut pas d'une guerre au Liban, mais peut infliger d'énormes dégâts. Déclaration ce soir du ministre israélien de la Défense. L'extension de la guerre au Liban serait en tout cas potentiellement apocalyptique pour l'ONU. Israël et le Hezbollah échangent des tirs quasi quotidiens à la frontière avec le Liban. Et puis en France, le premier tour des législatives n'est que dans 3 jours, mais déjà se pose la question des désistements pour faire barrage à l'extrême droite au second tour. Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, demandera aux électeurs de gauche, je cite, de ne pas faire la bêtise de voter pour le Rassemblement national. François Hollande lui appelle au désistement républicain en cas de triangulaire. Mais pour le Premier ministre Gabriel Attal, le moyen le plus sûr de ne pas avoir à choisir entre la France insoumise et le Rassemblement national, c'est de voter dès le premier tour pour nos candidats. L'écologie n'est pas vraiment un sujet de la campagne législative. En tout cas, les émissions de gaz à effet de serre continuent de baisser en France. Moins 5,3% au premier trimestre. C'est une bonne nouvelle, mais qui demande donc à être confirmée dans la durée. Simon Rosé.
En 2023, les émissions françaises de gaz à effet de serre avaient diminué de près de 6%. Pour les 3 premiers mois de 2024, la tendance se confirme, moins 5,3% selon les premiers chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique. Tous les secteurs sont concernés. La production énergétique a ainsi vu ses rejets de CO2 diminuer de 17% par rapport à la même période l'an dernier. Cela s'explique notamment par une plus grande disponibilité du parc nucléaire qu'en 2023. Autre secteur où les émissions sont également en forte baisse, le bâtiment. La raison est cette fois conjoncturelle. Les températures douces ont réduit les besoins de chauffage. Enfin, les transports, pourtant généralement plus durs à décarboner, suivent la tendance, moins 3%, en raison, selon le ministère, d'une diminution des émissions des véhicules diesel. Cette dynamique permet à la France d'être dans les temps de passage de la trajectoire qu'elle s'est fixée, moins 55% des émissions de CO2 d'ici 2030. Reste cependant une énorme inconnue, la composition de la future majorité à l'Assemblée nationale, puisque de l'avis de tous les experts, une victoire du Rassemblement national compromettrait la réussite de cet objectif.
La dernière demeure de Marilyn Monroe, classée monument historique, une décision du conseil municipal de Los Angeles ce mercredi, un classement qui vise à éviter la destruction de la maison où l'actrice a rendu son dernier souffle. Elle doit permettre à la ville de protéger le bâtiment situé dans le quartier de Brentwood. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez dans quelques instants Priorité Santé.